Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et il me le confie. Donc il est sur une petite table devant moi. Il a les yeux grands ouverts. Et c'est le premier contact que j'ai avec mon fils. Autant il y a des choses qui sont parties de ma mémoire. Mais ce moment-là, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Parce que c'est le moment de connexion où l'univers, en fait, il t'indique que le centre de l'univers, en fait, il se déporte. Et tu n'es plus le centre de l'univers. Et en fait, c'est ton enfant qui le devient. Cette connexion est tellement forte. Et ça justifie, rien que ce moment-là, justifie l'envie d'être papa, quoi.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est avec Laurent.
Oui.
Salut Laurent.
Salut Fabrice. Comment vas-tu ?
Ça va et toi ?
Très bien.
Laurent, on s'est rencontré par l'intermédiaire de Kylian.
Exactement, Kylian Talin, d'Inspiration Créative.
Exactement. Et on s'est retrouvé dans un même groupe.
Oui, un groupe de responsabilité.
Voilà, donc pour expliquer un peu aux gens, il y a plein de gens dans cette communauté qui sont plutôt des communautés de créateurs, de créatifs et d'entrepreneurs, en fait, hein, je crois qu'on peut dire ça.
Ouais, voilà, tout ce qui peut toucher à la création. C'est création sans limite.
Exactement.
Se donner le droit de porter ce titre.
Et au sein de cette commune, Kylian organise des plus petits groupes pour qu'on puisse se retrouver une fois par semaine, une fois tous les 15 jours pour venir discuter, débriefer un petit peu. Et tu m'as glissé un jour au sein d'une de ces discussions. Je me souviens plus exactement ce qui m'a fait tilter, mais je me suis dit, ok, ça pourrait être intéressant de parler de paternité avec Laurent.
Donc te voilà. Me voilà.
Donc dans la vie, t'es graphiste.
Alors, je suis pas graphiste.
Pardon. Parce que c'est déjà mal. Tu fais plein de choses.
Alors, par contre, c'est un truc qu'on m'a dit toute ma carrière, quoi. T'es graphiste. En fait, non, il y a une distinction. C'est-à-dire qu'en fait.
Parle-moi bien, d'accord.
Non. Mais après, je pense que c'est une espèce de détournement du terme anglais, graphic designer. Et en fait, par contre, en France, on distingue les graphistes des illustrateurs, par exemple. Tu vois. Moi, je suis auteur-illustrateur.
OK.
Et plus particulièrement, pixel artiste. Et le graphiste, en fait, il va être plutôt en fait dans la création de mise en page, de chartes graphiques, de faire du design graphique, c'est-à-dire faire aussi des logos, concevoir des magazines, concevoir des livres. Et l'illustrateur est beaucoup plus lui attaché à l'image pure et dure. Même si évidemment, il y a des passerelles entre les activités.
Ok. Bon, pardon. Donc tu es illustrateur et également auteur. Et également pixel artiste.
Et pas que ça.
Tu fais plein de choses.
Je fais plein de choses.
Et tu fais de la musique aussi, c'est ça ?
Ouais, je fais de la musique. Depuis un an, je m'y suis mis sérieusement. Parce que je me suis donné la permission de faire de la musique sérieusement. J'en ai fait depuis que je suis adolescent. Mais c'est vraiment le compositeur du dimanche, tu vois, sur ses petits synthés ou sur son ordinateur.
Okay.
Et là, depuis un an, je fais une auto-formation. Donc ça va jusqu'à la production aussi. Donc du coup, je me suis mis un petit peu à apprendre un peu le solfège que j'ignorais totalement parce que j'étais totalement autodidacte. Voilà, savoir se servir des accords, faire des gammes, des progressions, des choses comme ça. Et puis évidemment tout le côté plus technique de la production musicale. Donc c'est le mixage, savoir faire une compression, une égalisation. Voilà.
Auto-formation, tu sais que ça me fait un peu penser à la parentalité.
Oui, et on s'auto-forme. Il y a une école des papas et des mamans.
Non.
Eh, c'est un truc à.
Ça serait bien, hein.
C'est un truc à imaginer, ça a du poignon à se faire.
Tu m'étonnes.
Ah oui, mais ça dure pas longtemps. C'est des étudiants qui sont là pendant 7 ou 8 mois, et puis après.
Tu crois ?
Après, ils deviennent professionnels. pas professionnellement.
T'es ouf, toi, je crois que ça dure toute la vie.
non, mais d'accord, mais quand tu te formes. Parce qu'après, une fois que tu as tes enfants, tu retournes à l'école des enfants. Ouais. Et il faudrait réfléchir à un cursus.
Une fois que t'as tes enfants, tu continues.
T'as plus le temps,
tu continues toute ta vie, t'es ouf. Oh là là. Donc aujourd'hui, t'es papa. Et c'est aussi pour ça que tu viens pour parler histoire de daron.
J'étais là, je suis papa.
T'es papa d'un fiston ?
Oui, d'un fiston. Il s'appelle Joachim et il a 8 ans.
D'accord. La question que je pose à mes invités, généralement, c'est comment t'en es venu, toi, à vouloir devenir papa ?
Je pense que c'est une envie qui remonte quand même, mais en fait l'opportunité est apparue en fait dans une seconde partie de ma vie. Voilà.
T'as quel âge aujourd'hui ?
J'ai 45 ans.
OK. Donc t'as eu ton enfant
génération X. Nous sommes de la génération X.
Oui, c'est vrai.
Génération dont on ne parle jamais, la génération Goldorak.
La génération du club Dorothée.
Ouais, c'est ça.
Mais ouais, donc ça veut dire que t'as eu ton môme, t'avais 37, quoi. 38.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc sur 37 une... ans. Sur, sachant que l'âge moyen en France, il est autour de 30-31, je crois.
Ouais.
C'était un peu plus tard que la
ouais,
moyenne.
Ouais, voilà, c'est ça. Pas trop vieux daron, mais pas trop jeune daron.
Est-ce que tu peux expliquer ce qui t'a amené à finir par devenir papa dans ta deuxième moitié de vie ?
En fait, c'est la rencontre avec ma compagne Géraldine.
Ce qui est toujours bien.
Eh oui, il vaut mieux. Il vaut mieux le faire comme ça. Quoique, il y a plein d'autres façons,
mais disons que d'une manière générale, c'est quand même bien de...
On va dire, voilà, la voie naturelle.
De rencontrer quelqu'un.
Ça comme ça. Je sais pas. Comment tu dirais?
J'irais classique.
Classique, voilà, on va dire classique. Voilà. Voilà. Complètement. Bien sûr, c'est vrai que c'est pas évident les termes. Et ouais, donc du coup, oui, la voie classique, je rencontre Géraldine. Donc au départ, on a une petite aventure, je dirais pas épistolaire, mais au moins TGVR, puisqu'en fait, elle était sur Paris. Donc elle travaillait dans le milieu du cinéma. Au Nouveau Latina, ça s'appelait avant, c'était le cinéma en fait qui a Hôtel de Ville.
Okay.
Maintenant, ça s'appelle le Luminor.
Okay.
Voilà, ça a changé entre temps. Et du coup, en fait, j'allais la rejoindre. Donc, elle habitait sur Pierrefitte, Saint-Denis, tu vois là-haut.
Et toi,
super ligne 13.
Et toi, tu vis dans quel coin ?
Ouais. Et moi, en fait, je viens de Nancy.
D'accord.
Voilà, donc j'habite dans une petite ville à côté de Nancy à l'époque là. Et donc, bah, du coup, bah, je fais les trajets pour la rejoindre. Pour l'argent de là-bas et voilà, puis au bout d'un moment on décide de prendre un appartement et en visitant en fait on cherchait du côté de Charenton et parce qu'il y avait une espèce de logique avec la ligne 1 en fait on essayait de raccrocher la ligne 1
pour les gens qui connaissent pas Paris,
c'est Vincennes, voilà, gros, on va dire ça.
Et Vincennes, on peut dire que c'est dans le sud, c'est dans le sud-est.
Ouais,
ah, c'est l'est, alors, toi tu dis, ok, bon, d'accord.
L'est, c'est Montreuil, on va dire. Et mais oui, mais en fait, c'est un peu le coin là, quoi.
Voilà.
Voilà. C'est plus est que sud-est, je pense.
Ça marche.
et on a eu de la chance de trouver un appartement sur Saint-Mandé, donc encore plus près que Charenton. Et donc, on pouvait se permettre d'avoir cette location là. Et donc, c'était un petit appart. On l'avait trouvé super sympa en rentrant dans, super luminosité, très très agréable. On se rendait pas compte des vis cachées, tu vois. Et on était super heureux de pouvoir commencer cette histoire sur Paris.
D'accord.
Comme ça que je suis devenu parisien entre guillemets.
Et quand est-ce qu'est venu parce que t'avais quel âge à l'époque quand tu l'as rencontré?
Ah, alors là, tu parles à un vieux, donc du coup le vieux ne se souvient pas exactement non, mais de l'âge. C'était en 2000, on s'est rencontrés en 2010 et on a emménagé en 2011 à
D'accord.
Saint-Mandé.
Donc à l'époque, toi, dans ta tête, l'idée d'avoir un enfant, c'était pas du tout dans ton scope, quoi.
C'était une possibilité tangible, parce que forcément à l'âge là, bah tu penses à cette projection, tu vois, projection cosmique de l'univers, d'avoir un enfant, de transmettre. Je pense que c'est quelque chose qui me parlait. Mais oui, c'était pas, il y avait pas un plan, tu vois, un plan de bataille tout fait, trouver une copine, avoir un enfant, tu vois, c'était pas du tout, je partais pas là-dedans.
Ok.
Mais c'était envisageable, c'est-à-dire que si je rencontrais quelqu'un, c'était pour construire quelque chose, quoi. Voilà.
Ok.
Parce que dans mon ancienne vie, j'avais déjà en fait fait une construction qui n'a pas été jusqu'au bout parce que justement peut-être que les fondations n'étaient pas complètement bien ficelées, quoi.
Dans ton ancienne vie de quoi, soit t'en dis trop, soit t'en dis pas assez.
Bien
mais...
sûr, mais je vais... Mais en fait, j'étais en couple depuis la fin du lycée, début des études, pendant 15 ans avec une fille. Et en fait, on a eu enfin bah c'est pareil hein, c'est une histoire comme ça qui dure sur vraiment pas mal d'années et puis on avait fini par acheter une maison. Et donc en fait bah du coup j'étais propriétaire d'une maison à un moment et comme bah tu t'en doutes donc l'histoire s'est terminée et donc bah du coup bah il a fallu revendre la maison donc du coup de perdre ce statut de propriétaire et de redevenir en fait dans la peau d'un étudiant chez sa maman quoi.
Oui t'es retourné carrément
Ouais à l'époque là ouais je suis retourné aux alentours de 2009 et ouais je suis allé retourner vivre chez ma maman.
C'était pas trop dur à vivre?
Ah, si, bien sûr, ouais, complètement. C'est,
non, il pourrait y avoir un truc de je retourne dans le nid.
Ah ouais, mais c'est ça. C'est...
Mais t'as pas envie de retourner dans le nid?
Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Puis je pense que ma mère non plus.
Ah ouais.
Voilà, elle est super, quoi. Elle m'a épaulé, elle m'a aidé à remonter la pente. Parce que bah, du coup, j'ai fait aussi une dépression suite à cette rupture. Et ça a été une dépression formatrice, voilà, parce que en fait je suis tombé sur les conseils d'un ami, je suis allé voir une psychogénéalogiste. On n'a pas forcément travaillé la psychogénéalogie, en fait la psychologie des ancêtres, quoi, de tout ton arbre généalogique.
Ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est
exactement
ça.
Exactement, c'est ça. C'est un sujet super intéressant. On a un petit peu abordé.
Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que on traîne sur plusieurs générations les traumas de nos aïeuls, quoi.
On porte les valises, en fait, de ses ancêtres, et on s'en rend compte parfois. Et du coup,
c'est souvent très inconscient, parce que.
C'est extrêmement très inconscient. Oui, c'est extrêmement inconscient. Ouais, complètement. Et ces valises-là, elles pèsent. Et on sait pas quoi en faire, parce que c'est une espèce d'héritage implicite. Mais c'est pas nos valises, c'est pas nos affaires et faut savoir les déposer et les laisser là où elles sont puis construire sa propre vie.
C'est quoi les valises avec lesquelles t'as bossé toi, enfin, que tu portais et que dont t'as dû te débarrasser.
Justement, je pense que j'avais pas cette problématique là. C'est pour ça qu'on n'a pas fait cette thérapie de transgénérationnelle. On a juste abordé 2-3 petites choses qui étaient très intéressantes. J'aurais pu après approfondir. J'en ai pas ressenti le besoin. Mais c'était bien. Par contre, elle m'a aidé, elle m'a fait le focus sur le présent. Ça, c'était important parce que le passé n'était pas si impactant que ça. Donc, on a vraiment travaillé sur le présent ensemble et elle m'a aidé à justement ne pas être une, le terme un petit peu biaisé, mais ne pas être une victime. En fait, mais c'est une victime de moi-même, hein, pas victime des autres. C'est-à-dire se mettre dans la position de la victime. Voilà, genre, écrasez-moi, je suis qu'une pauvre merde, allez-y, de toute façon, je m'en fous. Voilà, en gros, j'étais un petit peu dans cette logique-là de tout lâcher, quoi.
Ça devenait de ton éducation, tu penses?
Non, c'est vraiment mon caractère.
Ok.
Mais peut-être, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à la psychogénéalogie qui expliquerait ça.
Ok.
Mais c'est vraiment mon caractère jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que je fais les choses à fond. Quand j'ai une passion... je peux pas la faire à moitié, quoi. Je fais vraiment jusqu'au bout. Et c'est une problématique puisque si je suis déçu d'une passion, tout s'écroule. Tout s'écroule parce que derrière, j'ai tout mis dedans et tu vois, c'est vraiment mettre les œufs dans le même panier, quoi. Peut-être les yeux aussi. Parce qu'on en s'aveugle. Mais voilà, j'avais cette problématique-là. Et elle m'a aidé à pas me laisser faire, quoi. Et c'est déjà à lutter contre moi-même et puis à m'affirmer, en fait, en tant que célibataire.
Ok. Donc, tu sors de cette relation.
Ouais.
Donc, tu disais que tu étais au lycée, donc tu avais quoi, 17 ans
Ouais, c'est ça, on avait 18 ans.
Jusque, donc à peu près, t'es 32-33.
Ouais, c'est ça. Oh, tu calcules trop bien.
Et oh.
Ah, trop fort, je suis impressionné.
Et là, d'un coup d'un seul, bah, effectivement, j'imagine que tes plans de 15 ans
de vie, ouais,
de
peut...
route toute tracée.
Oui, complètement, oui.
Exactement,
c'est ça. C'est la route toute tracée, en fait, la croyance qu'on se met à deux, d'ailleurs. Parce que c'est 50-50, hein,
bien sûr.
Dans une relation, toujours. Ça, faut quand même le préciser. Et oui, tout s'écroule, quoi. Tous tes plans s'écroulent. Voilà, tu te retrouves avec que du vide. Et le vide est flippant.
Tu m'étonnes.
Super flippant.
Et comment tu fais pour tomber donc sur ta compagne actuelle en partant de chez toi, enfin de chez ta maman, donc j'imagine. Donc un état d'esprit un peu triste, quoi, tu vois, j'imagine.
Bah c'est ça. Bah en fait, bah je me réfugie déjà dans le travail. C'est bah en fait j'ai cette chance là de faire un métier passion. Je déteste ce terme, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais c'est la réalité quand même, c'est un métier qui me passionne. Donc du coup bah je dessine, je fais du pixel et j'ai des clients. Ça c'était pas parti, ça, les clients continuent à appeler. Il y a 2-3 boulots que j'ai pas fait parce que je leur ai dit bah je suis en dépression, j'arrive pas à vous rendre des gros boulots. Mais tous les petits boulots qui étaient jouables, qui ne demandaient pas une charge mentale sur des semaines, ça continuait. Donc du coup, je me réfugiais là-dedans vraiment à fond. Évidemment, il y a aussi les jeux vidéo. Je suis un gamer. Donc voilà, j'avais un petit peu cette soupape. Mais c'est surtout les séries TV. C'est vraiment le truc qui m'a sauvé la vie, quoi. Vraiment.
À ce point-là.
À ce point-là, je pense. À l'époque... C'était la série Lost en fait qui passait sur TF1. Donc archi fan de la série. Et je crois qu'on était à peu près entre la 5e et la 6e saison, donc on n'avait pas encore le dénouement. Et il y avait l'impatience de savoir la suite. Donc du coup, je me suis enfilé plusieurs fois les saisons 1 à 5. À la suite, quoi. Je les enchaînais. Déjà, j'avais fini la saison 5, je recommençais la saison 1.
Mais pourquoi ?
Je faisais ça en travaillant. Parce qu'en fait, c'était devenu mon doudou. C'est, en fait, dedans, j'ai projeté, en fait, le miroir de ce qui m'arrivait sur un personnage qui s'appelle John Locke. C'est-à-dire que John Locke, son nom est inspiré d'un philosophe britannique qui, justement, travaillait sur les questions de l'existence. Et ce personnage-là a une destinée, une perspective en fait dans la série qui m'a extrêmement touché et dans laquelle bah je me suis projeté. Je vais pas dire reconnu non plus. En fait, le personnage arrive sur l'île. Le personnage arrive sur l'île et c'est le seul personnage au début qui est sur la plage. Donc Lost, c'est un avion qui se crache sur une île déserte. Il y a des survivants et c'est le seul personnage qui est hyper zen. Et qui est heureux d'être, peut-être pas heureux, mais en tout cas apaisé d'être là sur cette plage-là. Et on va découvrir pourquoi. Voilà. C'est un personnage qui a une histoire avec de la trahison, qui a une histoire avec une envie d'aller de l'avant. On lui a toujours refusé, on lui a toujours dit tu n'y arriveras pas. Et c'est quelqu'un qui a une idée en tête, un fil rouge, et tant qu'il ne trouvera pas la vérité sur ce fil rouge là, il n'arrêtera pas en fait de chercher et d'explorer. Et ça, j'ai adoré l'idée parce que évidemment c'est le parcours, le chemin qui est beaucoup plus intéressant que la destination, parce que la destination en général elle est plus décevante parce qu'on s'en fait une idée de la beauté de la destination et qu'en vérité c'est le chemin qui nous apprend des choses et on trouve des choses à apprendre tout le temps.
Quel est le lien entre le fait que tu regarde Lost et le fait que tu te trouves une chérie?
Parce qu'en fait, j'ai eu besoin de partager ma passion, de pas me retrouver juste seul dans ma grotte, puisqu'en fait, bah, quand on est en dépression, on se coupe de ses amis. On se coupe de ses relations. Donc du coup, bah, les amis qui comptent, alors je veux pas dire, enfin ouais, c'est un petit peu violent dit comme ça, mais en tout cas les amis qui concernent, les amis qui vont faire l'effort de casser cette espèce de mur qu'on se met de la dépression et de venir quand même nous voir, ben forcément ils se construisent les doigts d'une main parce que quelqu'un qui est en dépression, on va le voir peut-être une fois, on essaie de lui remonter le moral, puis il est tellement déprimant et puis il raconte tellement son histoire en disque rayé que bah les gens au bout d'un moment ils passent autre chose, puis bah quand il ira mieux on verra, puis point barre quoi. Et du coup bah ça me manquait en fait ce contact avec d'autres personnes. Donc du coup c'était facile parce que je suis allé sur un forum de fans de Lost et c'était facile de recommencer de zéro du relationship avec les gens en fait. Et je suis allé très vite il y avait un petit chat sur le forum, donc ça permettait de discuter en direct et donc d'aller dans des discussions beaucoup plus deep, beaucoup plus dark side, tu vois. Et je suis tombé sur un gaillard en fait, Jean-Philippe, qui était modérateur en fait, de ce forum là et on a commencé à parler philosophie, religion, on dépassait complètement l'idée de la série et j'ai découvert toute une bande de joyeux dris et de joyeuses dris qui faisaient la même chose, qui étaient là, qui papotaient, qui échangeaient, qui voilà, on a formé un petit noyau comme ça. Et un jour il y a une fille qui débarque sur le chat, Jay Phoenix. Je suis intrigué par elle, tu vois. Elle avait en fait elle avait un caractère, tu vois, vraiment spécifique qui m'a beaucoup plu. Puis du coup, ouais, je commence à la, parce que du coup, j'étais devenu un petit peu agent d'accueil du chat. Et donc du coup, je commence un petit peu à parler avec elle et je me rends compte qu'elle habite dans les Vosges. Et je dis bah, je suis de Nancy, tout ça. Et bah on a passé des soirées comme ça, à échanger, à discuter. On a bien accroché, puis du coup on a voulu se rencontrer et on s'est rencontré à Paris. Voilà, on s'est donné, plutôt que de se donner rendez-vous justement en Lorraine, comme elle travaillait déjà sur Paris, on s'est rencontré sur Paris. Et voilà, c'est parti de là. Donc j'ai pas fait de site de rencontre. On s'est rencontrés via les internets.
Ouais, je crois qu'il n'y a rien de meilleur que de rencontrer des gens par affinité grâce à un forum ou peu importe, un truc comme ça où tu te dis bah, en fait, on va partir à la base d'une passion commune et puis on va voir si on en a d'autres derrière. Quoi.
C'est exactement ça. Et ce qui est formidable, c'est que, parce que c'est pas seulement avec Géraldine, c'est avec tous les potes en fait, de ce forum Lost, en fait, on a vraiment formé une petite bande qui existe encore aujourd'hui. Là, cette semaine, on a passé une soirée ensemble. Tu vois, il y avait Hugo, il venait de Londres, tu vois, il travaillait à Londres. Ludo et sa copine sont sur Doménil, tu vois. Donc, du coup, on s'était donné rendez-vous comme ça. Puis on,
est-ce que vous regardez des épisodes Alexandra ensemble
à l'époque, ouais.
Non, mais plus maintenant.
Ah non, plus maintenant. Mais par contre, on est toujours fans de séries. Donc, on s'échange des tips. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu connais la série Ted Lasso.
Bien sûr.
Voilà, formidable.
Bah série preuve du moment.
Et donc,
là.
On a parlé, quoi.
Ah, yeah. Très, très bonne série, d'ailleurs. Je le dis pour tous les gens.
La série de la bienveillance, quoi.
Et surtout qui parle de masculinité, quoi.
Mais oui, complètement.
Ça traite tous les sujets, là.
Oui, parce qu'on est dans les vestiaires de footballeurs.
Et ça, vraiment, il check l'intégralité des sujets. Je trouve que c'est marrant d'arriver à attraper, entre guillemets, les mecs par le foot et par le sport.
Très malin.
Et puis de les foutre face à des sujets avec lesquels ils ont du mal. Je crois qu'il y a vraiment tout. Hein. Le deuil, la rupture.
Oui, puis ils sont pas finis d'arriver. Le dernier épisode avec Coach Bird, on va pas le raconter, mais c'est incroyable.
On le raconte pas, Voilà. Ok. Donc, fast forward, Géraldine, ouais. Comment ça se passe à quel moment vous vous dites, ok, c'est cool, on a envie d'avoir un enfant?
En fait, je pense qu'on a très vite un petit une petite routine en fait qui s'installe, une routine sympa, tu vois, une routine nouveau parisien, tu vois, entre guillemets. Je dis qu'on est parisien même si on habite sur Saint-Mandé parce que c'est vraiment une
c'est à côté.
Ouais, c'est vraiment comme un mini arrondissement en plus comme il en existe tout autour de Paris. Donc oui, on sent un petit peu parisien quand même. Et donc il y a cette petite euphorie là, tu vois, dans la grande ville, tu vois, et de se sentir bien et puis d'avoir l'impression que voilà, on peut construire quelque chose ensemble. Donc ça vient petit à petit. Et puis oui, puis au bout de 2 ans, c'est une volonté commune qui pop comme ça.
Okay.
Voilà, avoir est-ce qu'on pourrait avoir un enfant ensemble, quoi. Et on a essayé.
J'imagine que vous avez.
On a réussi. On a une première alerte. Donc du coup on a vraiment cru que Géraldine était enceinte et c'était une fausse alerte, quoi.
Okay.
Je sais pas comment on appelle ça en fait. Je sais plus. Je l'ai su à l'époque et maintenant j'ai complètement oublié.
Ok.
Voilà. C'était un positif qui l'était pas. Donc, okay. Voilà.
Oui, elle a pas fait de fausse couche. C'était plutôt.
Non, voilà, ouais. Ouais.
Un test raté, quoi.
Ouais, je pense que c'était vraiment quelque chose un peu comme ça. Et du coup on s'est pas laissé abattre. On s'est dit let's try again. Et puis la fois là, c'était la bonne.
Okay.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Okay.
Tout simplement.
Comment se passe cette grossesse? Comment t'apprends? Enfin, comment ça se passe déjà toi de ton côté quand t'apprends que tu vas être papa?
C'est alors j'ai pu le souvenir, exactement de ce que j'ai ressenti. Mais j'ai le souvenir qu'on, d'un bonheur en duo, tu vois, en commun, de se dire ça y est, le chemin commence. Et ça devient sérieux, ça y est. Là, le rêve de, il est passé. Et ben attends, bah voilà, c'est on est parti pour un chemin de 9 mois, a priori.
Plus.
Non mais
je sais pas encore.
Non, mais, voilà, exactement. Pour le moment, c'est la perspective. Il y a une échéance à 9 mois. Et donc voilà. Et Géraldine est très comment je pourrais dire ça. Elle adore en fait se renseigner, tu vois, sur les choses. Quand elle fait quelque chose, elle lit beaucoup, elle se renseigne beaucoup, elle interroge beaucoup, et elle devient assez incollable sur pas mal de petits sujets. Donc c'est quelque chose qui l'a porté la grossesse en fait, et où elle s'est vraiment impliquée dedans. Ce qu'on n'a pas dit jusque là, c'est que ma thématique à moi de daron, c'est l'enfance. Et c'est-à-dire l'enfance en tant qu'enfant, en tant que grand enfant, en tant qu'enfant qui traverse la vie. Et je me souviens donc d'un épisode, bah c'est l'épisode 15 avec tes filles sur Histoire de Daron.
Oui.
Avec Tim et Lina.
Je ne saurais pas dire quel est le numéro d'épisode, mais tu le sais.
Ça, si vous voulez l'écouter. Et Kim, dedans, en fait, s'interroge sur le moment en fait, où on devient adulte. Voilà, c'est une question qu'elle se pose à l'époque de l'épisode. Et tu lui expliques en fait qu'on peut devenir adulte quand on l'a décidé en fait. On devient adulte quand on décide d'être adulte et qu'on peut rester un enfant toute sa vie. Ce à quoi elle te répond, bah ok, d'accord, je décide d'être adulte là maintenant. C'est une réponse d'enfant qui est absolument géniale. Elle avait quoi, 9 ans ?
Ouais, c'est ça.
C'est absolument génial cette réponse parce que bah déjà c'est impossible, on peut pas devenir adulte quand on a un enfant. Mais en même temps, ce qu'elle dit est fabuleux parce qu'elle te prend au mot. Et effectivement, j'ai l'impression de... J'ai pas l'impression d'être un adulte. Voilà. J'ai l'impression d'être un enfant qui a grandi. Voilà. Et on en parlera tout à l'heure. Là, je fais une petite digression comme ça pour en parler tout à l'heure. Du coup, ce qui me met, moi, pour revenir à Géraldine, dans une position d'enfant qui va être papa bientôt, en fait. Voilà. Et donc mon implication est un petit peu en sidekick de Géraldine, tu vois, plus qu'en team up, tu vois, plus en sidekick.
C'est-à-dire que t'es plutôt à côté que ouais,
parce que je lis pas tout ce qu'elle lit, parce que je vis les choses de façon beaucoup plus adaptative. Moi, je crois beaucoup. Au flow en fait, tu vois, le FLOW comme
FLOW,
le flow, le flux dans la vie, et j'aime bien suivre ce flow là en fait, ressentir les choses. Je suis rarement dans l'anticipation, même si j'aime la construction vers l'avenir. Voilà, c'est quelque chose qui me porte vraiment beaucoup. Ça fait...
C'est pas une façon d'échapper au truc et de, parce que tu sais, il y a plein de pères qui font en sorte que la grossesse n'existe pas parce qu'en fait peut-être ça leur fait peur. Mm-hmm. C'est aussi une façon pour toi d'y échapper. Ta façon à toi de...
Ouais, c'est ma façon à moi de vivre la vie, et ça c'est quelque chose que j'ai appris notamment pendant ma dépression, donc c'est le chemin que j'ai fait, mais je l'avais également étudié avant en pratiquant les arts martiaux. Voilà, c'est aussi une chose sur laquelle on pourra revenir qui est très importante dans ma vie. Et donc voilà, j'ai ce côté-là plutôt cool, plutôt zen, d'un colérique abstinent, parce que je pense que je peux me définir comme ça. J'ai eu un long... Moi, je pense que j'ai un souci de colère depuis que je suis enfant. Et là, je fais vraiment une période où...
Abstinent ?
Ouais, parce qu'en fait, j'évite la colère au maximum. J'évite vraiment ça. Dès qu'elle monte, j'ai des routines, des méthodes en fait de relaxation, de méditation pour essayer d'analyser cette colère-là que je prends comme une information et pour éviter de la subir et de m'abandonner dans la colère. Toi, balancer un poing dans un mur ou ce genre de truc un peu extrême où tu sais très bien que le mur est beaucoup plus fort que toi.
A priori.
C'est très vain. La colère est très vaine, et en général, la colère démontre une impuissance.
Mais il y a peut-être aussi une... Peut-être des fois aussi où c'est une bonne chose de la laisser sortir, non ?
Il y a la bonne colère, évidemment, mais c'est comme c'est une information, on peut la traiter. Donc ça veut dire qu'on peut savoir si la colère est négative. Donc dans ce cas-là, bah, évidemment, faut la faire redescendre et la transformer. Et si la colère est positive, évidemment, mais une colère positive en général, elle, euh, Je la trouve évidente, c'est-à-dire elle est, des fois elle est sur le long terme puisque ça peut être une colère politique par exemple, on va pas rentrer là-dedans, mais ce sont en général de bonnes colères où il y a des choses soit dans la société qui nous concernent tous, et puis on a cette colère en nous un petit peu latente de pas laisser les choses.
Ouais, alors après cette colère-là, j'ai l'impression qu'elle nous dépasse aussi, donc il y a un truc où elle est compliquée à gérer, je trouve.
Oui, on peut pas la résoudre comme ça.
Moi, le truc que j'ai en tête, c'est la bonne colère, entre guillemets, et en tout cas, c'est ce que ma psy m'a dit, c'est que c'est une colère où que tu déclenches quand on vient te marcher dessus, ou quand pour défendre ton territoire, entre guillemets. Quoi,
ça, c'est les notions de distance. C'est les sphères qu'on a tous, et chacun sa sphère. Là, on a une distance, tous les deux. C'est une distance cool. On n'est pas l'un sur l'autre, tu vois.
Ouais, je parlais même en termes de valeur, tu vois.
Ouais, si... oh oui, bien sûr. Oui. Bah oui, après tu transposes ça sur plusieurs plans, tu vois. C'est les univers parallèles.
Oui, tout à fait.
C'est le truc un peu cosmique. Mais voilà, mais ces distances-là qu'on a dans plein de domaines différents, elles sont vraiment importantes. Et tu sais quand quelqu'un pénètre dans ta sphère, tu sais quand tu dois pas aller dans la sphère des autres. Et c'est des questions d'intimité aussi, de pudeur et de respect.
Donc tu fais en sorte cette colère-là de pas de l'éviter, mais en tout cas de la gérer le mieux possible.
Ouais, c'est ça, ouais.
Okay. Cool.
Bah, des fois on cherche à la fuir et à l'éviter aussi, ouais. C'est pas forcément la meilleure réaction, mais des fois c'est ce qu'on a sous la main. Faire avec les outils du moment, quoi.
Ouais, si ça peut t'aider.
Et c'est pas grave. Et voilà. Et donc, du coup, bah, c'est, pour refaire la boucle,
on parlait de la grossesse.
Exactement. Et donc, du coup, la grossesse se passe, tous les deux, j'en ai parlé avec Géraldine, et on a un bon souvenir de cette grossesse-là. Je pense elle l'a vraiment bien vécu, vraiment un très, très bel épanouissement, et bien sûr avec des petites problématiques. Hein, je pense quelle maman n'a pas des soucis pendant la grossesse, mais finalement rien de pesant et un très très bon souvenir globalement. Quoi.
Et toi de ton côté?
Je me suis impliqué, mais comme un sidekick. Okay. C'est-à-dire, ok, on fait ça. Oui, chef, ok, d'accord, pas de souci. C'est vrai que je suivais son lead.
On va d'accord.
Dire. Voilà.
Tu le...
Et quand je pouvais prendre le lead, je prenais, c'est le lead du daron, mais sur des choses un petit peu faciles de daron, quoi. Des choses qui ne demandent pas non plus l'effort des mamans, je crois.
Mais quoi comme truc?
Oh, ça va être par exemple, tu vois, gérer le mobilier tu vois, qui va popper dans l'appart, tu vois, le mobilier qui n'existe pas encore, le mobilier pour bébé, quoi. Et voilà, ce genre de choses, gérer un petit peu la logistique, tu vois. Voilà, c'est
okay.
Chef de chantier, tu vois. mais t'es pas l'architecte, tu vois.
Ouais, ouais, je comprends. Et émotionnellement, tu vis ça comment?
Vraiment bien. Voilà, j'ai pas d'angoisse. Parce que bah, ça va être un don de la vie, donc je l'accepte parce que je suis dans cette logique-là. Et en plus, bah, c'est-à-dire que les examens se passent bien, donc on n'a pas non plus d'angoisse par rapport à ce qui pourrait arriver au bébé, tu vois. Et donc ouais, tout est plutôt cool. Le seul petit souci qu'on a à ce moment-là, c'est pour Géraldine, c'est que en fait, elle a un petit souci de symphyse qui est un peu basse. Et donc, qui peut...
Je sais pas ce que c'est la symphyse.
La symphyse, c'est le bassin, tu vois.
Okay. Ouais,
je suis pas médecin. Je vais essayer d'expliquer ce que je sais, en fait. Et si le bassin est un tout petit peu orienté un peu trop bas, du coup, ça peut poser complications lors de l'accouchement, quoi. Et le bébé peut avoir du mal à sortir. Et on en parlera juste après.
Ok, pourquoi?
Parce que, voilà, on va parler lors de l'accouchement, quoi.
Ah oui, bah vas-y, comment se passe l'accouchement?
On y va?
Bah oui, vas-y.
Donc voilà, donc... On arrive en fait, on est entre la nuit du 5 au 6 mai 2013 et j'ai un rendu, j'ai une charrette à taffer cette nuit-là. Donc j'essaie de pas me coucher, quoi. Voilà. Je pense qu'on se dit qu'il reste encore quelques jours avant l'accouchement. C'est le terme de la grossesse pour Géraldine. Et puis voilà, donc je fais ma charrette, j'arrive à 8 heures du mat, complètement cassé. Et puis je vais dans le lit, je lui demande si ça va bien, tu vois, elle se réveille un petit peu. Ça va, tout ça. Puis tout d'un coup, elle se lève et puis elle va au WC et elle perd les os. Donc elle m'appelle, donc je me lève, la tronche enfarinée et elle me dit bah c'est le, ça y est.
Mais c'est pas du tout une bonne stratégie, non? De pas dormir quelques jours avant.
C'est complètement con, on est d'accord.
C'est
complètement con. Mais voilà, c'est ma vie. Ça, c'est moi tout craché. C'est me mettre en fait dans l'œil du cyclone. Et de gérer les choses. et j'y arrive. C'est ça qui est ouf. Je suis très fier de ça. Je suis hyper fier de ça.
Waouh.
Alors, le sac était prêt.
Oui.
Et surtout, j'ai une capacité à, que j'ai appris aux arts martiaux. Ça, je l'ai vraiment appris aux arts martiaux. J'ai une capacité à me mettre en mode bataille, tu vois, mode battle. C'est-à-dire que ça y est, la guerre est déclenchée. On savait que voilà, ça allait arriver, tu vois. Et puis tout d'un coup, bah, le soldat, le samouraï, etc., ce que tu veux, il sait qu'il faut faire le pactage, il sait qu'il faut gérer, et il sait qu'il faut aller aider.
Même en n'ayant pas dormi de la nuit.
Même en n'ayant pas dormi, il n'y a pas le choix. C'est là, c'est maintenant. Donc, okay. Voilà. Donc je fais, je m'occupe de tout. Donc j'appelle l'hôpital. Il m'explique en fait comment faire. On dit non, on vous envoie pas une ambulance. Vous inquiétez pas, ça va prendre des plombes pour le processus. Donc vous pouvez venir marcher tranquillement. Donc en fait, on est à Saint-Mandé. C'est à l'hôpital Bégin où on devait aller, donc hôpital militaire. Et qui faisait des accouchements à l'époque. Ça, ils ont arrêté.
Ok.
Voilà. et nous voilà partis dans les rues. Donc ça reste Saint-Mandé. Mais on se balade dans les rues de Saint-Mandé avec Géraldine. Donc on fait des petites pauses. Elle respire tranquillement. Je la rassure aussi parce que forcément pour elle, le stress, le début du stress commence. Mmh. Et puis on arrive comme ça à l'hôpital. Et donc ils la prennent en charge pour la péridurale et compagnie. Donc là, premier moment d'un petit peu de solitude pour moi, parce que ça, bah voilà, je sais que maintenant, ça y est, ça va arriver. et dans le sac, alors, on avait tout prévu. On avait la console de jeu, tu vois, c'était là. On avait vraiment géré. Et donc, on découvre une première équipe avec un sage-femme, un sage-homme. Comment on dit ? On t'a déjà dit comment on dit ?
Je crois, non, c'est, on dit étudiant sage-femme.
Étudiant sage-femme, ouais, c'est ça. Ouais, infirmier sage-femme.
Pardon, oui, parce que moi je pense à ça parce que j'avais un étudiant sage-femme, on avait un étudiant sage-femme lors de notre premier accouchement.
Voilà. Donc on avait un infirmier sage-femme avec nous. Donc il y a toute une équipe qui nous voit, puis ça nous met vraiment en confiance, ils étaient super cool. Et puis la journée se passe, et puis du coup, le col, en fait, ne s'ouvre pas plus que ça. Et donc on attend. Donc les heures passent. On arrive vers 9h à l'hôpital. Donc on tue un petit peu le temps. Géraldine elle dort, moi aussi j'essaie un petit peu de dormir. Donc je me trouve en tenue de daron à l'hôpital, tu vois, avec toi, la blouse, la charlotte, génial,
la classe.
Belle photo de ça. et puis les jeux vidéo. Je crois que Géraldine avait installé Fruit Ninja. Je sais pas si tu vois ce jeu.
Ah ouais, grave.
Il faut couper. Et j'ai pété des high scores dessus, je te jure, j'ai eu tout le temps, toute la journée.
Sur DS, c'est ça ?
Ouais. Okay. Je suis devenu un maître de ce jeu en une journée.
Ouais, c'est super.
Parce qu'en fait, on arrive, il est 15h, toujours rien. Il est 17h, toujours rien. Et il se passe le shift en fait, de l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'équipe qui avait suivi Géraldine, elle laissait la place à l'équipe de nuit. Et du coup, on se retrouve avec des personnes... qu'on connaît pas bien et avec lesquels on n'a pas le temps de se présenter, donc c'est nous qui allons remplacer, etc. Puis ouais. Ils sont déjà sur le feu pour d'autres accouchements, quoi. Et donc voilà, quoi. Et puis voilà, ça se déroule. Alors je me souviens plus très bien des heures, mais en gros ça va aller jusqu'à 21h, tu vois. Voilà.
Wow. Et donc, grosse journée.
Donc à une demi-heure de l'accouchement. Ils viennent la voir, donc ils regardent en fait l'ouverture du col. Ils disent bon, écoutez, voilà, a priori c'est ça, le col est bien ouvert, mais avec votre problème de symphyse, en fait, il y a une possibilité en fait de césarienne. Et alors là, c'est le choc pour Géraldine parce qu'en fait, on n'avait jamais anticipé ça.
Ah ouais.
Ouais. Okay. Personne nous l'avait dit qu'elle pouvait avoir ce. Ouais, on nous l'a peut-être dit, mais
pourtant son bassin n'a pas bougé, quoi.
Ben non. Mais, okay. Mais voilà, là c'est la réalité, quoi.
Ok.
Et donc forcément, moi je prends ça comme un retour médical, je trouve pas ça cool, mais c'est sur Géraldine, quoi, le stress de tout de suite switcher, il va y avoir une opération, ou qu'est-ce qui va se passer, etc. Ouais. On sait pas. Et
je trouve que c'est cool de le dire aux parents qu'il faut s'y mettre, faut se mettre dans la perspective que peut-être ça va finir comme ça, en fait.
Et ouais, en fait, on peut pas savoir.
Et que c'est une possibilité, et que plutôt que de l'écarter comme si ça n'allait pas arriver, surtout, enfin, tu vois, dans tous les témoignages de césariennes que j'ai, c'est souvent des césariennes d'urgence où les deux parents se retrouvent pris un peu au dépourvu, alors qu'en fait, si tu le fais rentrer entre guillemets dans ta dans ta routine potentielle de bah ok, c'est une possibilité qui peut arriver, au moins t'es pas pris au dépourvu quoi.
Ouais, complètement.
Bon, voilà quoi, c'est mon...
Bah c'est sûr, puis en plus il y a ce côté médicalisé de,
bah oui,
de c'est... l'hôpital, alors qu'en fait l'accouchement est un acte naturel qui se fait sans hôpital depuis la nuit des temps, donc bon voilà, on va pas parler business de l'accouchement, mais tu comprends, tu connais. Et donc voilà, et finalement bah le moment arrive et il décide en fait d'utiliser forceps, ventouse pour sortir le bébé quoi.
OK.
Donc voilà, tu te dis ouais, OK, je vais avoir un petit égyptien qui est l'antiquité égyptienne, tu vois.
J'aurais dit un alien, moi.
Un alien, tu vois, ça marche aussi. Mais d'ailleurs, il y a des théories là-dessus. Et c'est des égyptiens qui sont des aliens. Non, ne digressons pas. Et voilà, donc c'est un moment intense, quoi, parce que bah oui, c'est impressionnant. Moi, je regarde, enfin, j'assiste à tout l'accouchement, très impressionnant. Et évidemment, bah cette méthode d'accouchement n'est pas sans bobo pour la maman. Et quand mon bébé sort, en fait, bah du coup, ils prennent tout de suite le bébé, surtout que Joachim en fait avait avalé un petit peu de liquide, donc du coup il a pas crié en fait quand il est né, donc ils l'ont emmené directement. Ils m'ont dit allez, le papa, vous venez. Donc je suis allé dans l'arrière salle, ce qui fait que Géraldine n'a pas vu, elle a juste vu Joachim partir comme ça, mais elle l'a pas pris dans ses bras, parce qu'en fait ils ont dû la recoudre en fait tout de suite quoi.
Il
était croustillant. Et voilà, donc moi je me retrouve dans la salle, dans l'arrière salle à côté, avec les médecins, et ce stress là de me dire mais mon bébé en fait il va bien, il va pas bien, etc. Et donc bah du coup ils arrivent à le faire respirer assez vite. Bravo, il est professionnel.
Bah oui,
c'est et tu dis wow, quand tu l'entends crier, c'est super. Et il me le confie, donc il est sur une petite table devant moi, il a les yeux grands ouverts, et c'est le premier contact que j'ai avec mon fils. Et là par contre, ce moment là autant il y a des choses qui sont parties de ma mémoire, mais ce moment-là, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie, parce que c'est le moment de connexion et où l'univers en fait il t'indique. Et ça, c'est un ami qui m'avait dit ça à l'époque quand ça lui était arrivé, que le centre de l'univers en fait il se déporte et tu n'es plus le centre de l'univers, et en fait c'est ton enfant qui le devient. Je sais que ça arrive pas à tous les parents. J'ai déjà discuté avec d'autres papas en fait de cette logique-là. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Là, je me suis dit, tiens, maintenant, c'est lui. C'est lui le centre de l'univers, et c'est avec lui que ça va se passer, quoi. Et pourtant, je suis pas voyant, je vois pas dans l'avenir, mais cette connexion est tellement forte, et ça justifie l'envie d'être papa, quoi. L'envie d'être parent.
Ah ouais?
Moi, je le trouve.
Ok.
C'est tellement formidable. C'est tellement le début de... La page blanche, tu vois.
Ouais, c'est intéressant.
C'est fort.
Ouais, non, mais j'étais étonné par ce truc de cette sensation qui justifie l'envie d'être parent. Je trouve ça marrant. Ok, bon, enfin, j'en ai jamais entendu parler, mais trop bien.
Ah non, mais moi, c'est mon ressenti, en fait.
Ok.
Bah, parce qu'en fait, je pense que. Pour moi, c'est très cosmique. Et bah, tu vois, on parlait de transgénérationnel et. Je sais pas, moi en tout cas, j'ai mis cette perspective là, tu vois, dans la naissance.
Moi, j'ai eu cette sensation que ma première fille Lina me rattachait à tous mes ancêtres. C'était très étrange.
Ouais, j'ai vu
des racines, des machins, des trucs de tous les gens qui pouvaient être dans la famille. Mais ok.
Et ça devient concret en fait à ce moment-là, parce qu'en fait pour le papa en tout cas, parce que moi je pense que c'est très concret quand même d'avoir un petit être qui grandit dans ton ventre. C'est une sensation que évidemment nous on pourra pas jamais connaître a priori, sauf si la médecine change et qu'on devient hermaphrodite grâce à la médecine.
Non, écoutez,
le transhumanisme.
Je sais pas si t'as écouté cet épisode avec Ixia là, tu vois, mais je lui disais que donc c'est la première femme que j'invite en histoire de Daron. Je vous mettrai le lien dans les notes. Mais c'est la première femme que j'ai invitée dans l'histoire de Daron. Et en fait, elle a cette position où elle a accouché une première fois d'un enfant.
Ouais.
Et puis après, elle a été le coparent de sa femme qui a fait deux grossesses, en fait. Et elle raconte les deux points de vue.
Ouais, c'est génial. Okay,
et d'accord. Je lui disais, bah, moi, j'ai vraiment eu cette sensation quand ma femme est tombée enceinte, que j'arriverai jamais à faire ça, en fait, et que globalement, bah, je serai pas entier, comme elle peut l'être, quoi, tu vois.
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Les gens ne le voient pas, mais tu regardes dans le vide.
Ouais, c'est ça, non, j'imagine la sensation que ça peut donner, ouais.
Voilà, pourquoi on parlait de ça? Oui, par rapport
à la naissance.
Ouais. À la naissance. Mmh. Ok, la naissance. Donc premier contact cosmique.
Cosmique, ouais. Et deuxième contact comique.
Pourquoi?
Ça, je vais te dire. Donc, évidemment, bébé né, donc on, voilà, avec Géraldine, elle découvre Joachim.
Ouais.
Et donc, bah, du coup, le papa, tu dois te barrer le soir même. Et
ah oui.
C'est un peu dur, quoi. Tu vois, tu laisses.
Chaud.
C'est dur. Donc, je suis rentré un peu tout seul à l'appart. Donc, ah. Une espèce de sentiment de solitude absolue et en même temps de bonheur total. Et en me disant, bah, vivement demain, parce que je vais les revoir et puis ça va être super chouette. Et donc,
c'est horrible. On peut en parler de ce moment-là,
ouais,
parce que moi,
sûr.
Je suis rentré, j'étais tout seul, j'ai jamais chialé autant de ma vie. J'avais un sentiment à la fois de plénitude et de solitude fou, quoi. Et en même temps, t'es tout seul.
Ouais. T'es vraiment livré à toi-même et tu te sens, pour le coup, complètement impuissant, parce que là, tu t'es pas là, quoi.
Bah ouais.
T'es pas là.
On en parlait avec d'autres darons sur mon Discord, là, tu sais. Je vous mettrai un lien aussi.
C'est encore la médicalisation, ça, parce que je pense que voilà, si t'es pas médicalisé, là, par contre, tu peux pas avoir ce moment de solitude puisque t'es avec ta famille directement, tu vois.
Bah non, parce que il y a des. Enfin.
Si, tu accouches à la maison, tu vois.
Ah, ok, dans l'aspect médicalisé,
ouais,
dans
ouais,
ce
voilà
sens-là.
Ça, ouais. Tu vois, c'est encore la médicalisation qui crée cette distance.
Ouais, c'est vrai.
C'est intéressant, quand même. Donc voilà, donc j'attends avec impatience le lendemain pour pouvoir aller les voir et puis voilà qu'on fasse notre premier moment en famille quoi. C'est voilà. Donc, du coup le lendemain m'arrive et puis bah la première chose qu'on t'apprend à faire c'est changer la couche, alors je crois qu'on n'a pas le droit de baigner le bébé au début, on peut juste le nettoyer justement parce qu'il y a encore cette couche protectrice qui est super importante. Et puis surtout bah le prendre dans ses bras et puis faire connaissance quoi, c'est hyper important. Et donc à un moment bah Géraldine a un petit peu besoin de se reposer évidemment parce que la nuit a été dure. Et bah je me retrouve avec Joachim puis je dis bon allez hop on va se faire une petite balade dans l'hôpital tous les deux le papa et son petit fiston tu vois tranquillement donc je commence à sortir la chambre, je me balade et tout d'un coup ça commence à biper. J'étais en train d'enlever mon propre fils parce que tu sais qu'ils ont des petits bracelets dans les hôpitaux et que si tu t'éloignes en fait du récepteur et bah c'est enlèvement de bébé.
Ah, t'étais en train d'enlever ton enfant.
J'étais en train d'enlever mon enfant.
Classe.
Donc évidemment, il y a des gens qui accourent. C'est bon, c'est le mien. Il y a pas de souci. J'avais juste dépassé le périmètre.
Ok. Je ne savais pas.
Super sensation. Voilà, la petite gaffe, toi. La petite gaffe du daron débutant. Donc voilà.
Bon, et comment ça se passe avec ton fiston?
Eh ben là, actuellement, ça se passe super bien. Non, en fait, c'est vraiment, c'est on a une relation. Alors évidemment il a 8 ans donc il est aussi dans une relation avec sa maman où sa maman c'est un petit peu la femme de sa vie, ça c'est logique, je pense que tous les petits garçons pensent ça. Mais on a une super relation de copains en fait ensemble.
Est-ce que ta chérie a eu le droit à ce truc de quand est-ce qu'on se mariera ensemble et tout?
Ouais mais quand il était plus petit puis le mariage là ça les bisous le mariage ça l'énerve là.
Oui.
Il veut pas qu'on entende parler. Il avait des copines il y a 2 ans. Et maintenant, il a plus de copines.
Ouais, 8 ans.
T'es fini, plus de copines. Terminé.
Ça reviendra.
Chaque fois qu'on lui dit, tiens, ils vont faire des bisous, il se retourne, il fait.
Ouais, donc tu disais, t'as une relation de copain avec lui, c'est ça?
Ouais, j'ai vraiment une relation de copain avec lui. Évidemment, la relation de papa, d'adulte, est hyper importante. Et là, on revient justement sur la thématique de l'enfance. Il m'oblige à être adulte. C'est parce que je peux pas être un enfant avec lui. Il y a évidemment toute la pédagogie, l'éducation qu'on apporte à nos enfants, et c'est lui qui me rend adulte en fait. Tu vois, quand tu parlais de la décision d'être adulte, on est adulte quand on décide de l'être. Et ben c'est lui qui me fait prendre cette décision là.
Ok.
Voilà. J'étais tonton avant, donc j'ai déjà eu en fait cette relation de copain adulte, tu vois, avec des enfants qui était génial. J'adore mon neveu et ma nièce, ils sont vraiment formidables. Et ça m'a servi un petit peu d'entraînement pour Joachim après, quoi. Mais évidemment, être papa, c'est pas être tonton, quoi. C'est complètement différent. Il y a une responsabilité de tous les instants, une vigilance à avoir que, voilà, tu t'as un radar qui existait pas, qui est tout d'un coup greffé en toi et tu sens les choses, quoi.
Un radar à danger, tu veux dire, ou...
Ouais, le radar à danger, le radar à émotion, ouais, c'est ça, ce petit truc où t'étais peut-être pas. Ouais, je vais pas dire ça parce que c'est pas juste pour ceux qui veulent pas nécessairement d'enfants. Mais moi, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose comme ça. Et ce petit truc en plus, ce petit radar, il me rend plein en fait. C'est une sensation que j'ai. C'est juste personnel.
Oui, je comprends. Ouais. Après, je crois que tu peux aussi le développer pour des pour d'autres personnes qui sont pas forcément tes enfants, quoi. Tu vois.
Alors complètement.
Mais c'est une question d'âge, peut-être.
Alors non, mais je pense que c'est vraiment une relation humaine où tu t'attaches à quelqu'un et il devient méga important pour toi. Je pense que oui, il y a pas, c'est pas forcément le lien du sang qui donne ça. C'est l'attachement humain que t'as pour une personne puis l'amour que tu lui portes, quoi.
Ok.
Le radar de l'amour.
Le radar de l'amour. Et comment tu fais pour être copain et en même temps figure d'autorité?
Bah, c'est l'avantage du skill d'enfant développé pendant des années, puis après la date limite, tu vois, de l'enfance. Du coup, ça aide vachement. Je suis toujours resté très très lié à l'enfance. Bon, tu vois, par exemple, j'ai passé le BAFA quand j'étais jeune adulte.
Meilleur truc, hein. Si vous avez 16 ans, n'hésitez pas à aller passer le BAFA, quoi.
Ouais, je pense que c'est hyper formateur. Et je trouve, alors c'est, par exemple, puisqu'on peut plus faire le service militaire, je trouve qu'aller faire le BAFA, c'est une super formation, tu vois.
C'est vrai que c'est, il y a un peu,
on apprend
un,
quelque chose,
y a un peu un rite.
Côté civil, un côté un rite, ouais. Puis ce lien transgénérationnel encore avec
ouais.
Ta génération d'après, tu vois.
Ouais.
Parce puis, que il y a pas si longtemps, t'étais encore un gamin, tu vois. Et tu deviens responsable d'enfant.
Ouais, c'est vrai. Et tu vois, moi, par exemple, mon deuxième, j'avais 17 ans et je gérais des ados qui avaient
bah oui,
15 ans.
Moins de 15 ans, ouais, c'est ça.
Et c'était marrant, c'était intéressant.
C'est dur d'être adulte avec des,
c'était bizarre.
Des personnes qui ont très peu de différence. Ouais. C'est très dur.
C'était étonnant.
Très dur. Et ouais, donc j'avais fait ça, tu vois. Donc j'ai fait des colos, animateurs et tout. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais depuis toujours. Et puis, je pense aussi, il y a ce gros lien que j'ai à l'enfance, qui est hyper important. Mon papa, qui n'est plus de ce monde, en fait, il m'a initié à l'informatique. Et c'est grâce à lui si aujourd'hui j'ai cette passion-là pour l'image. Il était, je sais quand il était jeune, il s'est essayé au petit film d'animation, tu vois, avec les petites caméras de l'époque et tout, en 35 et en 8 mm, etc. Et il était aussi passionné de photos, il était aussi passionné de musique, tu vois, il était musicien amateur. Et toutes ces choses-là, donc en fait, par exemple, dans ma famille, on a toujours eu un ordinateur, puis qu'on est petit, il y avait des consoles, un ordinateur. Et ce qui était pas courant à l'époque, tu vois, dans les années 80, tu vois, début des années 80.
Il est mort quand t'avais quel âge, ton père?
Il est mort quand j'avais, c'était en 2005, c'est ça, ouais. En 2006, ouais. Il est mort en 2006, ouais. Et donc, du coup, j'avais, putain, je suis nul, moi, pour faire le rétro-pédalage.
T'avais 30 ans?
Ouais, ouais, c'est ça, j'avais 30. Bah oui, bah une 76. 2006, bah, j'avais 30 ans. C'est ça, j'avais 30 ans.
C'est pas dur de perdre son père à 30 ans?
Bah si, parce qu'il était, il était encore jeune. Oui. Il avait 56 ans.
Ah oui.
Et c'est dur parce que quelque part, bah il connaîtra jamais Joachim. Ça, c'est une chose. Mon neveu avait à peine un an. Donc il a jamais. Il n'a jamais connu non plus sa petite fille. Le souvenir en fait que j'ai de ce moment-là, c'est-à-dire qu'un jour, donc j'étais à Nancy dans notre appartement avec ma copine de l'époque, et puis je reçois un appel, et puis c'était la gendarmerie, tu vois, d'un patelin du coin, et puis il me parle de mon père, quoi. Et voilà, ça, les images se font dans ma tête et tout ça. Puis je vois l'accident, tu vois. Donc je laisse parler le gars au téléphone. Et puis à un moment, je lui dis, mais ok, d'accord. Mais en fait, mon père est dans quel hôpital? Pourquoi? Enfin, il dit, non, monsieur, en fait, votre papa est décédé, quoi. Et là, au bout de 3 minutes, tu vois, j'avais pas capté. Et lui, il ne l'avait pas bien expliqué.
Il savait pas trop comment le dire.
Ouais, peut-être il y a un truc comme ça. Et voilà. Et en fait, en gros, il m'appelait parce qu'il avait pas réussi à contacter ma mère. Donc du coup, je suis le premier qui l'a dit. Enfin, j'étais le premier informé, en fait. Donc mon père, en fait, avait fait un AVC sur le parking, en fait, de la banque où il allait. C'était au mois de novembre, donc. Donc voilà, j'ai cette information-là. Je raccroche le téléphone. Je prends ma chaise de bureau. Je la fracasse par terre. C'était ma réaction. Et puis j'ai poussé un gros cri, quoi. Tu vois, comme un kiaï, tu vois. J'ai vraiment poussé un cri.
Comme un quoi?
Un kiaï, le kiaï, c'est le cri qui tue, quoi. C'est en fait le. C'est une décharge vocale, en fait, que tu envoies, tu vois, dans les arts martiaux japonais, okay. Notamment.
D'accord.
Toi, par exemple, quand, quand le karatéka pète des briques.
Ah oui, le fameux cri. Okay.
C'est ce cri-là.
Okay.
Donc j'ai balancé ça. Donc voilà, donc, du coup, on se rend en voiture chez ma mère, et puis, enfin, chez mes parents. Et puis, bah, j'arrive, et c'est ouvert, mais du coup, je vois pas ma mère, tu vois, je l'appelle, et en fait, elle était à l'étage. Et en fait, il se trouve que ma mère, ce soir-là, elle avait fêté son pot de départ en retraite. Et donc mon père lui était déjà en retraite depuis quelques années. Et en fait, ils n'ont pas eu un seul jour de retraite en commun. Et donc du coup, j'ai dû annoncer ce soir-là à ma mère que mon père était mort. Donc c'est le plus mauvais souvenir de ma life. Voilà.
Comment ça se passe En fait, à quel point la naissance de ce fiston, il te sert à... Je sais pas...
C'est carrément un lien. C'est
compenser que... quelque chose ou créer quelque chose que t'as...
Ouais, c'est carrément un lien. Mmh. C'est peut-être continuer ce que mon père, en fait, nous apportait à moi et mon frère. Nous, en fait, on continue à le donner à nos enfants, en fait. Ça, je pense, c'est pas conscient, hein, mais il y a ce fil cosmique, tu vois, qui relie. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu voyais le vertige de ton arbre généalogique. Mais en fait, on est complètement dans ce lien transgénérationnel. Justement, c'est j'ai ça en moi, quoi. Je sais que voilà, on lui parle de son papy qu'il connaîtra jamais. Et je me souviens que Joachim, quand il était petit, on avait perdu notre chat. Tu vois, elle avait 16 ans, puis elle avait des petits soucis. Donc du coup, elle est morte. Alors, je fais comme une totale digression. Mais donc Géraldine, un matin, elle m'appelle. J'étais en rendez-vous pour le boulot. Et j'étais, je crois, à la Défense, tu vois, super loin par rapport à Saint-Mandé. Et puis elle me dit, là, elle va pas bien, tu vois, elle respire pas bien. Elle me dit, c'est sûrement pour aujourd'hui, elle va mourir. Du coup, j'ai dit, ok, d'accord. Donc, je suis rentré aussi vite que j'ai pu. Et en fait, elle m'a attendu. Et du coup, j'ai pu la prendre dans mes bras, tu vois. Elle est vraiment pas bien, tu vois, elle toussait beaucoup. Et je l'ai pris avec moi, je l'ai pris par terre. Puis en fait, elle est morte dans mes bras. Donc Joachim était à la crèche, et donc du coup on s'occupait avec le vétérinaire, tu vois, on a fait tout ça. Quand on est revenu le soir, du coup on a expliqué à Joachim, donc il était tout petit, quoi. Il était déjà en âge de comprendre qu'on pouvait mourir. Et donc en fait on lui a expliqué un truc tout bête, hein, tu vois, on lui a parlé des étoiles, puis on lui a dit quand quelqu'un meurt, tu vois, imagine il devient une étoile, ça te permet de penser à cette personne-là. Donc on a fait une veillée pour notre chat qui était parti. Donc Joachim, il a allumé les bougies, il avait mis tous ses doudous, il avait cherché ses doudous pour honorer, tu vois.
C'est cool.
Et puis là il nous sort là il y a Pamba, donc c'était notre chat. Et puis là il dit c'est papy. J'adorais.
Voilà, il avait fait le lien tout seul.
Ouais, il avait fait le lien tout seul. Ouais.
Trop cool.
Trop cool. Trop cool. C'est les petits moments comme ça que t'as avec tes enfants et c'est eux qui t'envoient comme ça dans le cosmos, quoi.
Dans le cosmos.
Ouais. Bah oui, parce qu'on vient des étoiles. Tu vois.
il y a tout un truc aussi où tu parlais du chaos dans une discussion. Je me demandais, t'es un grand adepte du chaos et t'aimes beaucoup réfléchir là-dessus et ouais. Vivre aussi dans une forme de chaos qui finit par être limité en un mode de vie, quoi.
Oui,
tu vois,
oui, c'est un mode de vie.
Où tu dis que t'as pas d'emploi du temps, le moins possible. Et que
le moins possible, parce que voilà. Je pense que sinon c'est pipoté de dire qu'on n'a pas du tout d'emploi du temps. D'ailleurs, j'ai commencé à utiliser un calendrier Google depuis 2 mois.
Bravo.
Toi, par exemple.
C'est grâce à ça que t'es là aujourd'hui.
Ouais, non, j'aurais pas loupé.
Mais
ça aide.
Comment ça se passe en termes d'éducation et de parentalité, ce chaos-là?
Alors en fait, ça se passe plutôt bien parce que Géraldine comprend mon fonctionnement, parce que si elle le comprenait pas, ça serait déjà une catastrophe. Déjà que c'est pas facile à accepter. Elle est beaucoup plus organisée que moi. Et moi, je vis beaucoup plus dans l'action plutôt que dans la préparation. Même si je suis, par exemple, si on part en vacances, ça va être plutôt moi qui vais tout prévoir à l'avance pour être tranquille.
Ah oui.
Voilà. Ouais, je suis capable de faire ça. Okay. Mais c'est juste pour me libérer de la charge mentale. Alors que Géraldine, en fait, va passer beaucoup plus de temps en organisation jusqu'à la dernière minute.
Ok.
Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement là-dessus. Que des fois, c'est assez électrique à cause de ça, quoi. Voilà. notamment. Mais du coup, avec Joachim, ça se passe plutôt bien parce qu'on lui amène. Je pense qu'on lui amène deux façons de s'organiser. Voilà. Je sais que les matins, Géraldine est assez à cheval sur le timing parce qu'elle doit aller, aller au boulot. Donc forcément, quand t'as 7-8 ans, bah, t'essayes de tout faire pour faire foirer le planning. Donc tu te roules dans ta chambre, tu mets 3 heures à mettre des chaussettes, tu fais exprès d'avoir aucune notion du temps, tu vois. C'est le moment que l'enfant choisit vraiment pour te mettre des bâtons dans les roues. Et forcément, bah, ça tape sur le système au bout d'un moment, quoi. Et donc, en général, moi, j'arrive pour faire un petit peu le tampon là-dessus, pour essayer de calmer un petit peu. Alors, des fois, ça marche, puis des fois, ça foire complètement, ça fait qu'amplifier le massacre. Mais on arrive quand même à s'en sortir, tu vois. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que je me dis, bah voilà, il n'y a pas besoin d'être surorganisé pour élever un enfant. On peut aussi faire les choses comme elles viennent. Et puis, essayer vachement d'être aussi à l'écoute de ses émotions, de sa sensibilité. Parce que Joachim, en fait, c'est un enfant qui est extrêmement sensible. Il éponge vachement les choses. Et nous, on essaye vraiment de nourrir, en fait, d'alimenter en fait cette sensibilité-là, quoi.
Okay.
C'est super important. Géraldine, elle lui donne une éducation hyper, hyper open, hyper ouverte. En gros, il a vraiment le droit de penser ce qu'il veut, de s'habiller comme il veut, s'il le désire. Bah évidemment, on lui achète les vêtements qu'on lui achète, puis on récupère les vêtements qu'on récupère. Mmh. Après, s'il a envie de quelque chose, il peut nous le dire sans souci. Pareil, soit pour son look, sa coiffure, ce qu'il veut faire, etc. Des fois, il se met des colliers, tu vois, il n'y a pas de souci. Voilà quoi. Là, actuellement, il est rasé sur les côtés, et puis on lui a laissé les cheveux longs, du coup, il peut avoir une espèce de coupe de viking, et puis des fois, il lâche tout sur le côté, comme ça. Donc il a un petit côté un petit peu androgyne et ce qui est très rigolo c'est que il s'est jamais offusqué, quelqu'un le prenne pour une petite fille, quand il était petit il s'en moquait, il relevait pas le
truc. Toujours les cheveux longs, c'est ça?
Souvent, okay. Pas tout le temps mais souvent.
C'est quoi le truc que t'aurais bien aimé savoir avant de devenir papa?
Rien en fait, voilà. Parce que j'adore de rien savoir. En fait, j'aime beaucoup la surprise. Tu vois, on parle du chaos. Je pense vraiment là-dedans. Je suis vraiment là-dedans. Et évidemment, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. Mais nous, on l'a pas vécu. Tu vois, par exemple, comme le postpartum. Je pense que ça, c'est quand même super grave qu'à l'heure actuelle, il n'y ait pas encore. Enfin, c'est génial parce que ça s'est vraiment développé. Il y a beaucoup de bons ouvrages sur le sujet, des podcasts sur ce sujet,
des
blogs
Insta.
Aussi, des comptes Insta, etc. Des bandes dessinées. Mais je pense que si tu vas voir des mecs, des darons en devenir, ah bah ouais, peut-être qu'ils connaissent pas le postpartum, quoi. Et c'est quelque chose qui pend au nez de tout le monde, quoi. Voilà, parce que on peut pas à l'avance savoir ce qu'on va ressentir quand on est une maman, ce qu'on va ressentir après l'accouchement, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et puis quand on a un papa aussi, parce que.
Et oui, parce que voilà.
Il y a une forme aussi de.
C'est possible. Ouais,
de baby blues, quoi. Tu vois, quand t'attends cet enfant-là.
Ouais. Et tu vois, je me demande, enfin, tu vois, je sais pas, faudrait poser la question, mais je sais pas si t'auras l'occasion de poser cette question à un daron qui serait barré, tu vois.
Ouais.
Mais
j'aimerais bien. Si vous êtes un daron qui vous êtes barré.
Ouais.
Venez me voir. Et en fait, j'adorerais qu'on discute ensemble. Que vous soyez revenu ou pas, d'ailleurs.
Ouais.
Mais vous aurez une écoute attentive. C'est un vrai truc que je. Et j'en ai pas.
Est-ce que cette fuite-là est un postpartum masculin?
Bien sûr.
Voilà. Je me suis posé la question, en fait, récemment.
Je crois qu'il y a une façon de dire ah, et en fait ce que les femmes peuvent pas faire.
Mais oui,
elles peuvent pas partir.
Mais non, puis la maman, elle a cette responsabilité là qui est un poids énorme, en fait, d'être une maman pour un enfant, c'est
Oui, puis d'être obligé à un moment donné que cet enfant sorte de toi, tu vois. Ben là, oui. Où toi en tant que mec, t'es là, bah moi je peux partir,
ouais,
en
ça,
fait
voilà.
L'enfant il sera quand même là, il va quand même.
Ouais, il peut venir me voir. Tu vois.
C'est un bon voilà, c'est un vrai ouais. Truc que j'aimerais bien avec effectivement, ça a été pas mal mis en scène au cinéma, tu vois. Et donc je crois aussi qu'il y a un truc ça manque de paroles là-dessus.
Bah complètement, et figure-toi que je fais partie d'un cercle de mecs.
Comment ça?
Oui monsieur.
Vous m'intéressez.
Je sais que je t'intéresse. En fait, bah depuis 2-3 mois, en fait, on se réunit avec un groupe de mecs
que vous connaissiez avant ou
oui un petit peu ouais. Je vais pas trop préciser le contexte parce que je pense, tu vois, c'est comme un Fight Club. Et tu vois. Et je pense que c'est super cool, tu vois.
Il faut pas en parler.
Ouais, c'est ça. Bah, si, je peux en parler, mais du coup, je vais pas dévoiler les identités, tu vois.
Non, non, mais je demandais pas ça non plus, quoi.
Pour en parler en off, si tu veux.
Ok, d'accord.
Mais pas à l'antenne. Et par contre, je peux parler du cercle. Et c'est génial parce qu'on est, on est six dans ce cercle-là. On a chacun des horizons complètement différents. Et on s'accorde comme ça, voilà, une soirée ensemble tous les mois où on peut s'écouter. Et c'est fait sans jugement, c'est fait sans conseil, sauf si vraiment il y a besoin d'un, il y a une demande, mais okay. On ne se conseille pas. Et on écoute surtout les uns les autres et on mutualise et on partage nos expériences, quoi. Et c'est fabuleux parce qu'on fait du transgénérationnel aussi, puisqu'on on parle aussi de nos enfances, on parle de nos fratries si on en a, on parle de nos parents et on parle de notre position en fait de compagnon, voilà. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est leur position de célibataire.
Je veux bien venir et poser mon podcast, mon micro au milieu. Hein.
Je peux éventuellement passer la proposition à ce cercle. Voilà, donc c'est vraiment un super moment aussi.
Ok.
Je connaissais pas ça. Évidemment, c'est parti c'est parti un petit peu de ce que fait Jerry Hyde, quoi. Ça nous a inspiré.
Jerry Hyde, donc vous pouvez écouter dans Histoire de mec. Bon, lui pour le coup, il est thérapeute. Vous avez un thérapeute dans le groupe?
Non, du tout. Là, on est vraiment.
C'est juste un groupe de parole.
C'est un groupe de parole. Okay. Voilà. Mais voilà, on s'intéresse notamment à Jerry Hyde. Ce qu'il peut raconter.
Qui fait des cercles d'hommes d'ici à ce que ça sorte, vous aurez eu Mayua, qui est la réalisatrice de son film qui s'appelle Make Me a Man, que j'ai pu voir et qui est fabuleux, sur la masculinité dans
Super
Histoire de mec.
Ouais.
Voilà. Je vous mettrai tout le lien. Écoutez, c'est très intéressant. Ça va en rapport à la masculinité, ça va avec la parentalité, la paternité, ça marche très bien.
Pas mal. Un peu de Dark Side.
Ouais. Pourquoi tu parlais de ce groupe de mecs? Parce que ça t'a aidé justement à...
Ben non, c'est parce qu'on parlait justement du manque de parole.
Ok.
Des mecs. Et nous, en fait, ça on apporte. On apporte tous les sujets, il n'y a pas de tabou. Donc okay. Ça, c'est top aussi. Voilà, c'est pas, on vient pas juste boire des bières, tu vois. On s'ouvre vraiment, quoi.
D'accord. C'est intéressant.
Donc, on parle aussi du rapport à la masculinité. C'est quoi ta définition de la masculinité, tu vois, par exemple, ce genre de...
Tout un programme.
Ouais, c'est tout un programme. Et c'est marrant parce que, tu vois, par exemple, cette question-là, moi, je peux répondre en mon nom. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Moi, masculinité, féminité, je suis les deux en même temps. Et je vis vachement bien avec ça. En fait, moi, je vais te dire un truc qui peut paraître un petit peu horrible. On va voir. Tu vas me dire ce que t'en penses. Je crois au transhumanisme. C'est-à-dire que pour moi, la perspective de l'humanité dans le futur, c'est qu'on va devenir des machines, d'une part, et autre possibilité que l'humanité, en fait, ne soit plus l'humanité qu'on connaît maintenant, puisque si on est amené à quitter la Terre, pour X raisons, parce qu'on va pas se bouger le cul, là, sur ce qu'on doit se bouger le cul en ce moment, on va devoir quitter la Terre. Et des personnes comme Elon Musk, notamment, sont en train de nous prouver qu'on peut se barrer. Donc, les perspectives, je pense que toutes les briques sont alignées là pour qu'un jour l'humanité se barre de la Terre. Et si on va dans l'espace, c'est déjà prouvé, on sait que l'humain se transforme en fait. On ne sera plus l'humain qu'on est actuellement sur Terre, n'est pas le même humain dans l'espace, parce que la morphologie, même l'ADN peut se modifier en fait au contact du cosmos. Donc ça c'est très intéressant, ce qui veut dire que l'humanité n'est pas une chose figée, c'est une chose évolutive. Le transhumanisme, le fait aussi de devenir des machines, puisqu'on est de plus en plus en train de se transformer en machines, par plein de façons différentes. Hein. Ça peut être simplement le cerveau branché sur l'électronique, mais ça peut être aussi du remplacement de membres. Ah oui, c'est vrai. Le remplacement des membres. Je vais me coller un micro, je vais me greffer comme ça. Remplacement des membres, remplacement des organes. Voilà, ce sont des choses quand même qui posent des questions éthiques. Mais est-ce qu'on aura une espèce de rébellion humaine, des pro-humains qui voudront jamais changer et contre les progressistes qui voudront évoluer? Ça, c'est de la science-fiction, mais voilà. Et
c'est pour nos petits-enfants, pour le coup.
Ouais, peut-être un peu plus longtemps, mais peut-être.
Enfin, quand je dis petits-enfants, je veux dire...
J'espère qu'ils seront milliardaires, parce que pour l'instant, ça coûte cher dans l'espace.
Tu m'étonnes.
Oui, là. Oui, ça douille. Mais en tout cas, le transgenre est un sujet qui touche maintenant nos enfants, vraiment, ils savent ce que c'est.
Bien sûr.
Là, on est dépassé, je pense, un petit peu. Et on a intérêt à se tenir au courant, parce que sinon, ça va aller vite. Hein. Nous, on se tient au courant, ça va, on n'est pas trop...
Ah oui.
On a informé, mais il y a des parents qui ne le sont pas encore.
Bien sûr.
C'est un peu dur.
Chacun son travail.
Voilà.
Bosser un peu.
C'est pour tes podcasts, d'ailleurs. Parce que
bah ouais, mais il y a de quoi faire. Il y a suffisamment de sources d'infos aujourd'hui pour pas être perdu, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, masculin, féminin, moi, je trouve ça super naturel de... qu'il y a un mélange et qu'on vive tous bien avec, et surtout de respecter les choix des autres, quoi. Voilà. C'est vrai que tu vois, bah, du coup, quand t'es daron, bah, tu vois les autres darons et daronnes à l'école, tu vois, parce que tu les fréquentes, hein. Et ouais, tu vois qu'il y a mille façons d'éduquer un enfant. Il n'y a pas une, si, il y a peut-être des meilleures façons que d'autres, mais en général, tu respectes le choix des gens parce que c'est tout à fait justifié dans leur cadre, et puis, bah, chacun se démerde un petit peu comme il peut. On n'est pas parfait. Voilà.
Ça. Que le père parfait ou la mère parfaite ou les parents parfaits me jettent la première pierre.
Se fasse lapider par les talibans en Afghanistan.
Terrible. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton fiston s'il écoute ce podcast dans 10 ans? Il aura 18 ans.
Il aura 18 ans, ouais. Il aura 18 ans.
Il sera devenu un grand.
Wesh. Eh ben alors, donc du coup, il aura atteint la limite enfant adulte. Ben, en fait, j'ai envie de te dire, Joachim, j'espère que. Bah, déjà, j'espère que tu vas bien.
Pour commencer.
J'espère que tu vas bien. J'espère qu'on est toujours potes. Parce que j'ai vraiment envie de continuer à être ton papa et tu peux compter sur moi aussi comme un pote à qui tu pourras raconter ta vie, quoi. Et j'espère surtout que tu fais les choses que t'aimes. Ça, c'est important pour moi et pour ta maman. On a envie que tu gardes ta sensibilité, que tu sois toujours le petit garçon que tu es là maintenant, que tu continues à le nourrir, et puis surtout, bah, tu vois que tu continues à aller vers les autres, en fait, comme tu le fais, parce qu'il a, enfin, Joachim n'a pas trop de filtre, en fait, avec les gens. Il est très, très spontané, très naturel, et c'est une qualité qu'on adore chez lui. Voilà.
Merci Laurent.
Merci
pour ce partage.
Ah, c'était avec grand plaisir.
Ça a été, on a balayé plein de choses. Un grand merci à toi.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en 10 ans. Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi, et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.